bibliothèque en vadrouille est aujourd'hui à Belfort et rencontre Axel Kahn qui s'apprête à donner une conférence dans le cadre d'un partenariat avec IDÉ et la Mutuelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, petite lecture pour initier cet entretien. Au cours d'une promenade en forêt, d'une escalade en montagne, nous nous sommes tous saisis afin de mieux assurer notre marche d'une branche ou d'un bâton tombé à terre. Ce geste, aussi vieux que l'homme, a marqué l'imaginaire symbolique de toute l'humanité. Ce bâton, qu'il soit droit ou nu, en bois ou en argent ou en or, finement ciselé, nous le retrouvons partout. Aucune imagerie religieuse qui ne s'en soit emparée pour signifier quelque sagesse supérieure, quelque autorité mystérieuse, comme l'indique un exorde babylonien, le cercle magique d'Ea est dans sa main, le bois de cèdre, palme sainte d'Ea est dans sa main, le rameau de palmier du grand rite est dans sa main. Nous pensons que c'est peu à peu par l'usage que ce symbolisme réellement puissant est né et s'est développé. Mais commençons tout simplement par la première utilité du bâton, par sa signification en quelque sorte primée. Je m'arrête là, c'était pour évoquer cet incroyable parcours que vous avez réalisé, les deux diagonales. Voilà, je voulais juste vous donner ce petit mot pour vous lancer.
Alors effectivement, j'ai traversé deux fois la France en diagonale, deux trajets d'un peu plus de 2000 km chaque trajet. Tout d'abord des Ardennes au Pays Basque et ensuite de la pointe du Raz à Menton. Et je l'ai fait muni d'un bâton. Je ne l'avais pas ramassé par terre, je l'avais coupé avec mon couteau de poche dans la forêt de ce domaine, de ce lieu qui est le berceau familial, juste à la frontière entre la Bourgogne et la Champagne. Je l'avais équipé d'une pointe métallique, une vis à son extrémité, protégée par un tuyau métallique qui a été emmanché de force, mis une lanière en cuir et ce bâton ferré en quelque sorte, très artisanal, m'a permis de faire ces plus de 4000 km. À quoi sert le bâton? Car il ne frappe pas toujours le sol. Lorsque je suis à plat, en descente, je le tiens simplement comme un spectre il est rassurant. Il me sert à écarter les ronces. Il me sert à écarter les orties. Il me sert à me prémunir des attaques de chiens malveillants. Il me sert des fois à m'amuser. Il me sert moi-même à me désigner un objectif. Au loin, comme cela. Des fois, je m'amuse à le faire tenir sur le bout de mon doigt et à marcher, comme le font les gamins, mais je reste un gamin. Et puis, quand la pente est dure, alors il me sert véritablement de canne. Pour quelle raison de tout temps les hommes ont-ils ramassé comme cela une branche? C'est que la branche, elle prolonge le corps. Et l'homme n'a eu de cesse que de prolonger le pouvoir de son corps. D'autres primates que nous sont capables de le faire. Les orang-outans, les autres primates prennent également des bâtons pour différents usages, pour prendre un fruit ou alors pour fouiller dans une termitière. Pour nous, nous avons sans doute hérité de cette propension-là, de cet atavisme-là. Mais en plus, nous savons que c'est le moyen d'augmenter notre puissance, notre force, notre marche, notre préhension. Et l'homme est dans la projection au-delà de lui-même. L'homme est conquérant. Et la première étape de cette conquête, ce peut être le bâton que l'on ramasse.
Très bien. Alors maintenant, je voudrais évoquer un de vos amis. On va peut-être poursuivre comme ça dans la découverte de votre parcours et de vos multiples facettes, si je puis dire. Je lis aussi un court fragment. L'émerveillement n'en est pas moins profond, au contraire. Les flammes restent toujours aussi fascinantes lorsqu'on connaît les mécanismes naturels qui les rendent chaudes et brillantes. À cette fascination s'ajoute l'admiration pour le jeu décrit par les chimistes des interactions entre molécules capables de produire la danse de la lumière. Le ciel nocturne paraît plus féerique lorsqu'on le sait grâce aux astronomes peuplés, en plus des étoiles visibles, d'innombrables galaxies que seules peuvent déceler nos télescopes et de mystérieux trous noirs que seules peuvent révéler nos équations. C'est cela la science, je t'en parlerai souvent. Un effort jamais achevé pour naître au monde, en faisant naître en notre esprit un modèle du monde. Donc là, je lis un petit extrait de « À toi qui n'est pas encore né », l'un des derniers textes d'Albert Chacard, avec qui vous avez écrit « L'avenir n'est pas écrit », justement. Donc peut-être une évocation de ce grand homme, qui était en plus un local, puisqu'il est de Haute-Saône. Et puis, pour clore l'entretien, avant de vous laisser rejoindre l'assistance pour la conférence, si vous pouvez enchaîner sur un conseil de lecture, voilà.
Oui, Albert Chacard était un ami, effectivement, j'ai écrit ce livre. C'était d'abord un homme profondément bon. C'était un homme passionné. J'étais en harmonie avec lui sur presque tout. Pas forcément. Des fois, je le trouvais plus inséré dans le monde dont il eût aimé qu'il fût que dans le monde tel qu'il était, hélas. Je lui reprochais un certain irénisme. Pas, je ne lui reprochais pas. Mais je lui faisais remarquer. Mais d'un autre côté, je dis souvent en m'amusant, quitte à avoir des sentiments, il vaut mieux encore avoir des bons sentiments que des mauvais. Or, il n'y a aucun doute que, de ce point de vue-là, Albert Chacard avait de très bons sentiments. De plus, ce qu'il dit dans le passage que vous avez lu est exact et est très beau. Il y a une beauté de la science et jamais la science, contrairement à ce que certaines personnes qui la connaissent mal ont prétendu, n'est capable de désenchanter la beauté du monde. La science, au contraire, peut être une confirmation, peut être un renfort à l'évidence de la beauté du monde. Mon frère était un très grand chimiste, un des meilleurs de sa génération. Il aurait pu, et il était un espoir du prix Nobel. Et quand il arrivait à synthétiser des molécules aux propriétés remarquables, notamment une molécule dont les différentes pièces étaient concaténées comme les anneaux olympiques, il disait qu'il le voyait un peu comme un bijou qu'il aurait lui-même forgé, comme un orfèvre pour le cou d'une femme aimée. Je sais que quand je regarde une fleur, je suis éperdument amoureux des fleurs. Je connais beaucoup de choses sur la photosynthèse, sur la biologie végétale, sur le pistil, les antennes, la reproduction. Cela n'a jamais rien enlevé à l'émotion esthétique que je ressentais au contact des fleurs, au contraire, naturellement. Donc de ce point de vue-là, mon ami Albert a tout à fait raison.
Saisi exactement cette pensée. Alors justement aussi, l'idée de ces petits entretiens, c'est de recueillir... puisqu'ils sont nés de textes, hein, là je n'ai pas le temps de tout citer, mais peut-être quand même citer juste les noms que j'avais choisis. Évidemment, la carrière, en écho à de nouveau votre parcours à travers la France, Théophile Gautier, les zigzags en France, et puis peut-être une ultime citation, puis après je vous laisserai lire, citer votre ouvrage que vous voulez nous recommander. Je le trouve justement, vous avez parlé de prix Nobel, dans un ouvrage qui s'appelle Nobel Alternatif. C'est une institution qui s'est montée un petit peu en complémentarité ou opposition, ça c'est tout un débat, avec l'Académie de Stockholm, et qui dit ceci, c'est une citation du fondateur, « La culture est ici considérée dans le sens que lui donnait Goethe, à savoir la perception d'un réseau vivant, spirituel et matériel, qui s'étend de l'écologie, science de la gestion de la terre, à la poétique la plus sublime, voire la mystique. C'est pour cette appréhension globale, cette acception élargie du terme de culture, que se laissent aussi guider les lauréats du prix Nobel alternatif. » Voilà. Alors je ne sais pas si l'auteur que vous allez nous citer pourrait peut-être un jour obtenir ce prix Nobel alternatif. Mais voilà, je vous laisse nous dire votre coup de cœur littéraire ou d'un
non,
essai récent.
Non, je voudrais vous parler d'un livre récent qui a été primé. Il a eu le prix Femina étranger. C'est le livre d'un auteur turc qui s'appelle Hakan Günday. G-U avec des trémas N-D-A-Y. A-K-A-N. C'est un livre terrible, épouvantable, dur, sur un sujet qui est au centre de notre préoccupation, de notre malaise à tous, celui des réfugiés et de leur passage par la Turquie, celui de l'inhumanité de ces trafiquants d'hommes que sont les passeurs, souvent de ces réfugiés, sans foi ni loi, sans aucune commisération, aucune solidarité envers les personnes. C'est l'histoire d'un enfant merveilleusement intelligent, mais monstrueux, moralement, totalement monstrueux. C'est un livre d'une dureté, mais d'une force incroyable. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité. Je conseille vraiment à ceux qui pourront écouter cette rubrique de se procurer ce livre.
Très bien, ben je vous remercie infiniment pour ce petit moment accordé pour justement cette bibliothèque qualifiée de En Vadrouille. Et maintenant, également, nous vous souhaitons une bonne conférence ce soir à Belfort.
Merci beaucoup.
Merci à vous.